Hello, on est le 12 octobre 2025 et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de considérations un petit peu générales sur l'IA suite à des annonces récentes et un peu essayer de voir où est-ce qu'on en est sur les usages de l'IA, bons et mauvais, et surtout les mauvais j'ai envie de dire, dans les choses que je vois un petit peu récemment, notamment de la part des grands acteurs et plus particulièrement d'OpenAI et peut-être aussi de Meta que je vais inclure dans le lot. Bon, il y a eu pas mal d'annonces. Il y avait en fait cette semaine la dev, comment ils appellent ça, le Open Dev, je sais pas, OpenAI, DevD, ou je sais pas trop quoi, enfin bref, la grande journée d'annonces d'OpenAI. Et donc, ils ont annoncé pas mal de choses. La première chose, vous avez forcément entendu parler, c'est Sora 2. Sora 2, c'est le modèle de génération de vidéos d'OpenAI, qui est apparemment très impressionnant, etc. Donc, ils ont rattrapé leur retard sur le modèle VO3 de Google. Bon, il y a d'autres modèles, hein, mais bon, c'est ceux dont on parle le plus. Peut-être qu'ils ont même dépassé un petit peu. Donc ça, bon, comme vous le savez, moi, ce n'est pas des sujets que je suis trop, tout ce qui est génération d'images, de médias en général. Mais il faut quand même un peu en parler. Parce qu'avec Sora 2, ils ont sorti une application qui s'appelle Sora, qui est une application qui est un TikTok-like, qui est une application comme TikTok, où il n'y a que des vidéos générées par de l'IA. Et là, on commence à arriver dans des sujets où, franchement, vous ne le voyez pas, mais je fais un petit facepalm, parce que franchement, je trouve que là, on nous présente une vision du futur qui est catastrophique, quoi. Franchement, que... Donc, dans le même temps, on a eu d'ailleurs, ils leur ont un peu volé l'exclusivité, mais en amont de ça, il y a eu l'annonce du réseau social Vibes, proposé par Meta, qui est aussi un réseau social avec uniquement du contenu généré par IA. Venant de Meta, ça ne m'étonne pas du tout, c'est une société vraiment catastrophique et terrible. Franchement, enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, il n'y a plus rien à sauver dans Meta, à part peut-être dans mes fantasmes cyberpunk, on va dire, le métaverse, mais bon, même ça, très franchement, si on y regarde vraiment à deux fois, c'est quand même assez problématique. Mais bon, il y a des usages intéressants. Mais alors, par contre, côté réseaux sociaux, c'est vraiment... On est passé à un level. On a tous vu, hein, il y a de nombreux documentaires sur comment ces sociétés captent notre attention, la détournent, l'exploitent et tout. Ça, je veux dire, si vous n'êtes pas encore au courant, bon, il faut aller se renseigner. Mais bon, ça, on va pas reparler de ça, c'est pas en plus un sujet vraiment lié à l'IA. Mais alors, avec l'IA, de proposer des plateformes, il n'y a que... Au moins, l'avantage, c'est qu'au moins, on sait à quoi s'attendre. Parce que le problème, c'est que sur les autres plateformes, bah, il y a aussi beaucoup d'IA, mais ce n'est pas forcément correctement labellisé. Et surtout, sur certaines plateformes, il n'y a aucune volonté d'essayer de labelliser les contenus par IA. Mais alors, carrément, de dire qu'il y a des plateformes où il n'y a que ça, franchement... Enfin, je veux dire, sur le fond, j'ai pas forcément un problème avec les contenus générés par IA. Je trouve que c'est une nouvelle forme d'art numérique, mais c'est bien quand c'est des artistes qui proposent des choses intéressantes. Quand c'est du AI slop, ça n'a aucun intérêt, ça consomme beaucoup d'énergie, ça abrutit les gens. C'est, je veux dire, franchement, ça c'est très très problématique, quoi. Donc vraiment qu'il y ait des applis où il n'y ait que ça, donc Vibes ou Sora, franchement, je trouve que ça a un gros problème. Alors moi, je ne serais pas client. J'ai pas, de toute façon, pour l'instant, je crois que Sora, c'est réservé aux États-Unis. Mais bon, c'est franchement, vraiment, je trouve que là-dessus, il faut se poser des questions, quoi. Donc ça, c'est... voilà, je ne vais pas digresser plus longtemps, enfin, même pas vraiment une digression, parce que c'est un sujet vraiment que je voulais aborder, mais... Voilà, ça, comme ça, vous savez quoi vous en tenir avec moi, c'est vraiment des sujets que je ne vais pas creuser. Je ne rejette pas en bloc la génération, on va dire, créative par IA, mais je rejette vraiment la massification. Enfin, ça, ce truc de masse, c'est vraiment un problème. Et vraiment, j'essaye de même réfléchir à comment je... Enfin, j'utilise quasiment plus, d'ailleurs, hein, d'images générées par IA, un petit peu, des fois, pour mes présentations. J'essaye de capitaliser, de faire que ça ait du sens et que ça m'aide à présenter un propos et que ça... Mais bon, je ne vais pas revenir sur les starter packs, les images Ghibli et tout, mais Voilà, tout ça est quand même vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, mais il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais bon, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que voilà, ça c'était vraiment les infos de la semaine. Mais ça m'amène à deux autres sujets qui sont un petit peu connexes et qui sont toujours dans cette vision du futur et de l'impact de l'IA sur tout ça. La première, c'est donc toujours OpenAI qui a montré l'intention que ChatGPT devienne en fait la super app du futur, en quelque sorte. Vous savez, on parlait souvent de super app, de WeChat, de X aussi, cette volonté. Enfin bref, des applications où on fait tout. On chatte, on cherche des informations, c'est un réseau social, on fait des achats, on fait tout ça. Et voilà, OpenAI va vers ça, notamment avec l'intégration du commerce dans ChatGPT. Quand vous allez demander à ChatGPT chercher pour vous des fringues ou, je sais pas, un ordi, un truc très précis, bien maintenant, vous allez avoir la possibilité de passer à l'action vraiment dans ChatGPT, sans quitter ChatGPT. Ça, je trouve pas forcément ça très grave, parce que je trouve que c'est pas un mauvais usage, pour être tout à fait honnête, je trouve, de l'IA, c'est-à-dire, c'est pas tant l'IA que ce côté un petit peu agentique d'un agent à qui vous allez demander « je veux tel vêtement qui correspond à telles informations, voilà, je veux une marque française, par exemple, qui fait des jeans qui sont recyclés ». Je trouve que c'est pas forcément un mauvais usage parce que on va pouvoir déclencher des recherches comme ça, un peu agentiques, et avoir des résultats un peu triés, intéressants et tout. Et donc là, maintenant, on va pouvoir payer directement. Bon, ça, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est juste une nouvelle manière de faire du commerce. Je vais pas forcément me rejeter ça. On verra. Encore une fois, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça soit, j'ai pas envie que tout, qu'on passe d'un Amazon à un OpenAI ou enfin qu'il y ait un monopole comme ça et que les gens n'aillent plus faire leurs achats directement. Mais bon, c'est pas forcément non plus très grave. De la même manière que je trouve que sur tout ce qui est voyage, on s'est vachement habitué aux comparateurs de prix et tout. Et franchement, enfin moi, je réserve tous mes hôtels par Booking parce que je pense, on pourrait en débattre, hein, mais je pense que Booking aide aussi les hôteliers, les restaurateurs, etc. Donc bon, c'est une plateforme, on commoditise un peu les choses, on centralise, bon, voilà, on n'est pas obligé de les utiliser. Mais quand on passe au stade d'au-dessus, c'est vraiment cette vision d'OpenAI, je la trouve un peu inquiétante parce qu'il y a toujours cette volonté très forte de monopolistique, quoi. Mais bon, on a un peu ça déjà avec Google, on a des choses. Donc voilà, donc le e-commerce, c'est une des applications qu'ils envisagent. Mais en fait, ce qu'ils ont présenté, j'ai pris ça parce que c'est l'exemple le plus facile à décrire, mais leur vision, c'est vraiment l'Internet du futur. C'est une plateforme dans laquelle toutes vos applications vont vivre et être interfacées par le moyen de la conversation. Donc je parlais de Booking, très probablement qu'il y aura ça. Vous direz, je veux un hôtel dans telle ville qui correspond à tel critère, et puis vous pourrez réserver tout de suite directement dans OpenAI parce qu'il y aura une intégration. C'est ce qu'ils appellent des apps. Donc ils ont présenté en fait, un framework de code, etc., pour permettre à d'autres plateformes d'avoir des apps. Donc, par exemple, il y a Canva, donc qui est un outil d'édition d'images graphiques et tout. Et bien, maintenant, Canva, vous allez pouvoir l'utiliser de manière conversationnelle à l'intérieur de ChatGPT. Et donc, vous avez un truc qui s'ouvre. Donc, c'est des applications, voilà. Donc, c'est vraiment dans la conversation, vous aviez l'habitude d'avoir des petites choses déjà un petit peu plus riches. Quand vous exécutez du code, vous pouvez avoir le code, le résultat et tout. Maintenant, ça va être tout. Vous voulez faire des images, vous aurez les trucs d'édition, donc le e-commerce. Je ne sais plus trop ce que c'était les exemples. Il y a quelques exemples. Il doit probablement avoir un truc autour du voyage aussi, un comparateur. Voilà, donc des choses comme ça. Donc, voilà, c'est intéressant. Je ne suis pas vraiment convaincu, mais je crois que j'en ai parlé à la conférence GenAI. Il y avait dans une des conférences de Back Market, la personne nous disait que de plus en plus de gens utilisaient le chatbot de Amazon pour acheter plutôt que de passer par l'interface visuelle où on clique sur les produits et tout, de manière un peu traditionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont clients de ça. Peut-être que la nouvelle génération qui va grandir avec ce mode d'interface, c'est-à-dire conversationnel, aura des usages complètement différents. Peut-être que dans 20 ans, on fera tout de manière conversationnelle, même à la voix peut-être, hop, je veux réserver un truc. Voilà, je pense que les générations d'avant qui ont connu plus le côté on clique, on a des apps spécialisées, je veux réserver un appart, et bah je vais sur Airbnb, j'ai tous les trucs. Continuer à faire ça, mais bon, ça on verra. Mais cette vision du futur, en tout cas, elle commence à se matérialiser très fortement. Et on voit bien que OpenAI, moi personnellement, j'ai pas par exemple actuellement d'abonnement OpenAI, des fois j'en reprends temporairement pour certaines fonctionnalités, mais moi mon outil au quotidien c'est Claude, mais on voit bien qu'OpenAI et ChatGPT sont devenus, sur le segment de marché consumer, de grand public, vraiment l'outil sans concurrence, hein, quasiment. Hein, franchement, en France, il y a des gens qui essayent un petit peu d'utiliser le chat de Mistral, mais c'est, tout ça est marginal. Hein, par rapport, je crois qu'ils sont à 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. OpenAI, c'est juste monstrueux. Donc, effectivement, ils ont une bonne chance d'inventer l'Internet du futur, hein, quelque part. Donc là, je vous en parle. Cette vision-là, je ne sais pas encore quoi en penser vraiment. Je n'ai pas envie de la rejeter en bloc sans idée un petit peu plus arrêtée. Donc on va voir. Mais en tout cas, c'est un signal très fort qu'il va falloir suivre. Sur les usages plus professionnels de l'IA, Claude a une d'Anthropic a une place très, très intéressante. D'autres outils plus spécialisés, des agents comme Manus, comme Perplexity, etc. Bon. Voilà, mais sur le côté grand public, franchement, OpenAI, ils ont pris une longueur d'avance assez impressionnante. Hein. Donc ça, c'est évident. Et alors, sur l'autre partie, donc ça, là, ce dont je vous ai parlé, c'est l'Internet du futur, grand public, consumériste, en quelque sorte. Mais il y en a un autre, Internet du futur, enfin, un autre, tout ça, l'usage de l'IA, c'est tout ce qui est professionnel, le travail du futur. On en a parlé récemment, l'impact de l'IA sur la productivité en entreprise est très largement débattable. On a le sujet du work slope maintenant, des gens qui utilisent de l'IA sans relire ce qu'ils ont fait et tout, c'est très problématique. Et bien cette vision, Microsoft vient d'en proposer le nommage et la continuité, et je trouve ça assez... Là, je trouve ça aussi assez problématique. Ils appellent ça le vibe working. Donc vous l'avez compris, évidemment, le mot vibe, depuis le vibe coding, est en train de se répandre partout. On parle de vibe marketing, on parle de vibe, j'en ai entendu d'autres. Mais pour moi, c'est un truc que j'aime bien, vous le savez, je parle beaucoup de vibe coding. Pour moi, le vibe coding, le vibe marketing, le vibe designing, même si on veut, tout ça, c'est la vision de néophytes, de gens qui ne sont pas professionnels, qui grâce à l'IA peuvent un peu faire des choses sur ces terrains-là. Par exemple, moi, je pense vraiment que je fais du vibe marketing, c'est-à-dire que j'y connais rien en marketing, j'y connais rien en copywriting, c'est des choses qui sont très très dures pour moi, avec lesquelles on a eu beaucoup de mal côté contournement jusqu'à un petit peu commencer à travailler avec des gens qui sont des professionnels de ça. Moi, je veux dire, j'ai lancé une formation à guide cet été sans l'IA, vous voyez, hein, des fois il y a des lapsus comme ça, mais sans l'IA, j'aurais jamais pu faire une landing page qui me permette de vendre autant d'accès à la formation, de trouver le bon copywriting, le design. Ça, c'est du vibe marketing. Si j'avais les moyens, si j'étais dans un truc plus ambitieux, je paierais des professionnels pour pas faire du vibe marketing. Pour moi, vibe, c'est, il y a un côté un peu approximatif, un petit peu candide, un peu, voilà. Après, en plus, sur le marketing, je dis que j'y connais rien. C'est quand même pas mal d'années que je suis dans... On a testé des choses, j'ai appris des choses grâce à contournement, même de mes projets précédents. Mais je connais juste assez pour pouvoir donner à l'IA des bonnes instructions pour faire des choses un peu concluantes. Mais ça ne remplace pas du tout l'aspect professionnel. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me paraît important. C'est que le vibe, et c'est pareil pour le vibe coding, je le répète à longueur de conférences et de podcasts et de vidéos, c'est de la programmation approximative. C'est pas de la programmation professionnelle. Pour l'instant, par contre, des développeurs, donc des vraies compétences qui utilisent de l'IA, bah eux, ils font du travail professionnel, mais c'est parce qu'à la base, de toute façon, ils savent écrire du code. Donc, il n'y a rien d'approximatif. Ils relisent le code qu'ils font, donc c'est pas du vibe coding, c'est du code assisté par IA. Le vibe coding, il y a quelque chose d'approximatif qui, aujourd'hui, ne permet pas de faire des applications professionnelles avec des enjeux de sécurité et tout. Je le répète encore une fois, ça changera peut-être. Et donc, tout ça, je tournais autre truc, mais pour introduire le fait que parler de vibe working, c'est extrêmement problématique pour moi. C'est très très problématique. C'est pas, enfin, il faut pas encourager ça. Je veux dire, le fait, donc eux, leur vision, en gros, pour expliquer un petit peu, c'est que dans toutes les apps d'Office, de la suite Office, les Excel, Word, etc., ben maintenant, vous avez de l'IA qui peut écrire à votre place, qui peut traiter les données et tout. Et donc, c'est vraiment, c'est un peu, voilà, c'est un vrai... Et donc ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, globalement, il y a des choses qui sont très intéressantes dans l'usage d'un assistant IA à l'intérieur de nos outils professionnels, c'est évident. Mais parler de vibe working, je trouve que ça, c'est, par contre, c'est plus problématique parce que ça veut dire qu'on va se satisfaire de travail un peu approximatif, de... Enfin, là, il y a un sujet, quoi. Il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que il faut qu'on parle de ce mot vibe. Globalement, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc, c'est que c'est pas un mot qui est fondamentalement positif et une vision du futur correcte. Même si, personnellement, je parle beaucoup de vibe coding. Le vibe coding, c'est l'opportunité incroyable de donner accès à des gens qui ne savent pas coder, de pouvoir faire un peu des choses avec du code. Ça ne remplace pas les développeurs, tout comme le no-code ne remplace pas les développeurs. Il faut être bien clair là-dessus. Et donc, parler de vibe working, bah, ça veut dire qu'on va mettre en avant le fait que les gens vont travailler un peu n'importe comment avec de l'IA. Et y a, c'est une fine distance, hein, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, c'est OK de faire du vibe marketing, des choses comme ça quand on n'a pas le choix, mais il ne faut pas que les gens qui sont des professionnels du marketing fassent du vibe marketing. Les gens qui sont professionnels du marketing font vraiment, ils font leur travail et ils s'augmentent avec de l'IA. Ou même, si possible, plutôt, ils s'améliorent avec de l'IA. Alors, il y a deux visions hein, dans l'IA philosophique, un peu, l'IA peut augmenter l'humain ou l'améliorer. L'améliorer avec cette notion que c'est plus... dans le temps, et que c'est-à-dire que même si vous abandonnez l'IA, vous avez quand même eu un bénéfice du fait de l'IA, parce que vous avez appris des choses. Voilà, enfin, il faudra un jour que je creuse un peu ce sujet-là, j'avais lu un article super là-dessus, voilà, mais là je répète un peu juste des choses qui m'ont marqué et que j'ai décidé de m'approprier, mais il y a un truc philosophique là-dedans qui est très 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 intéressant et qui date un peu. Donc voilà, il faut creuser, il faut voir, encore une fois, je ne rejette pas le fait que utiliser de l'IA dans un contexte professionnel, c'est intéressant, évidemment, mais l'assister comme un assistant. C'est ce sujet du workslope dont on parlait déjà, je parlais dans... Et il faut... Et donc là, c'est bien. Je pense que j'ai tous les bouts pour faire vraiment une newsletter un peu intéressante et peut-être un post LinkedIn aussi un petit peu là-dessus. Entre le workslope et le vibe working, voilà, on a aussi la vision du futur catastrophique où la qualité du travail en entreprise et tout va devenir vraiment très approximative. Et en fait, il n'y aura aucun cas de productivité. Il y a juste des gens qui vont mal travailler, des élèves aussi qui vont mal travailler. Parce que bientôt, on va nous sortir le vibe training aussi, le vibe formation, quoi. On va se former vite fait, plus ou moins, l'IA va apprendre à notre place. Enfin, voilà. Soyons un peu, gardons toujours un œil un peu critique, même si on est des enthousiastes de l'IA. Il faut vraiment faire attention. Il faut trouver, j'essaie en tout cas, moi, de trouver une posture intéressante où je pense qu'il ne faut pas tout rejeter en bloc, même s'il y a des fois il y a des trucs qui ont l'air vraiment très, très cons sur le papier. Et il ne faut pas non plus tout béatement s'extasier à chaque fois, quoi. Mais cette posture n'est pas évidente. Et bon, après, c'est chacun, c'est un curseur, chacun le met où il veut. Moi, j'essaye de le mettre quelque part. Mais voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça. C'est un peu globalement là, un petit peu ma vision sur tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, ça, c'est des sujets vraiment de fond qui me paraissent vraiment importants. Je vais faire, je pense, un post LinkedIn là, sur le sujet, comme ça on va pouvoir en discuter. Et puis voilà, écoutez, on peut continuer à discuter tout ça comme d'habitude sur le Slack de NoCode France, channel les contenus d'Alexis, ou alors vous pouvez m'écrire en privé, comme d'habitude, vous savez, sur les n'importe quel endroit où je suis disponible, ou par email aussi, hein, pourquoi pas aussi ces bons vieux emails. Certains d'entre vous le savent probablement, moi je réponds toujours à tous les emails. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça. Allez, bonne journée et à très bientôt.